l'invitation et M. Beauvais, et j'admire vraiment le lieu dans lequel vous êtes, et avec beaucoup d'envie. Juste une correction, je ne suis pas professeur de lettres, j'ai fait des lettres, bien sûr, mais j'étais professeur dans le département d'études hispaniques, mais je travaillais surtout sur l'esthétique, d'où l'esthétique baroque, naturellement, et aussi avec la philosophie, puisqu'il n'y a pas de philosophie sans esthétique, ni d'esthétique sans philosophie. Donc, on m'a invité à vous parler de théâtre baroque, et il se trouve qu'effectivement, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et j'ai été adaptateur d'œuvres, des commandes qu'on m'a faites, dont je vous montrerai deux extraits pour que ce soit tout de même peut-être plus intéressant à la fin. Et d'abord, Madame Capelletti m'a laissé un message sur mon ordinateur quand je rentre de Paris hier. J'ai essayé de réfléchir dans le temps que je pouvais, c'est-à-dire très peu malheureusement, vers ce qu'elle m'a demandé d'essayer de vous exposer. Donc, c'est sûr que parler de théâtre baroque suppose d'abord que l'on définisse un peu, comme ça. Bon, je n'aime pas trop, j'ai l'impression toujours d'avoir une glace que j'adore, mais là, bien. Ce qu'est le baroque, ce qu'on peut entendre par ce terme un peu vague. Ensuite, je vous donne un peu, si vous voulez, le plan. Ce qui est très important, c'est le baroque, c'est le culte de la nouveauté. C'est un art nouveau pour un siècle nouveau, j'essaierai de m'en expliquer. Madame Capelletti m'a dit que l'un de vos professeurs d'allemand voulait aussi que j'aborde les thèmes. Alors, les thèmes, mais essentiellement, ce sont des formes. Il n'y a pas de thème sans forme. Et le théâtre baroque, évidemment. Et voilà, plus je parle de la science, de l'illusion de réel au théâtre. Et après, évidemment, j'essaierai de répondre aux questions si vous voulez m'en poser. Alors, parler de baroque suppose évidemment de définir un terme qui était difficilement définissable. Le mot en fait, tout le monde le connaît maintenant, ça vient de mots portugais et espagnols qui désignaient en fait un terme de joaillerie pendant deux siècles, hein, 16e, 17e, 18e siècle, c'est un terme de joaillerie qui désignait la perle dite baroque, la perle irrégulière, ça a en forme de poire en gros, qu'avait, vous voyez sur certains tableaux, notamment Elisabeth d'Angleterre, en prend n'importe une, parce que c'était très rare, très précieux. Voilà, le terme baroque, voilà au départ. Et ça n'est que très tard, au 19e siècle, que, vers le dernier tiers du 19e siècle, qu'on appliquait ce terme à l'art qui succédait à la seconde renaissance, le maniérisme, dont cet art autonome, dont on peut considérer qu'il commence au dernier tiers du XVIe siècle, là on a des repères dans la peinture en Italie, et se termine au milieu du XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle le néoclassicisme, vous savez, la redécouverte des fouilles de Pompéi et la découverte de l'art antique, le style qu'on appelle peu, de façon franco-française, le style Louis XVI, mais qui est un style européen. La Renaissance, ça vient au début du XVIe siècle, pour la France, l'Italie, c'est bien avant, mais la Renaissance, c'est le retour à l'Antique, aux auteurs antiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle le classicisme. Donc, le classicisme, c'est la Renaissance, parce que c'est un retour aux auteurs classiques, c'est-à-dire qu'on étudiait en classe. Donc, n'oubliez jamais, le classicisme, c'est ce qui s'étudiait en classe des textes de l'Antiquité. Donc ça, c'est le classicisme, et le néoclassicisme, ce sera au XVIIIe siècle, au milieu, le retour à cet art antique. Voilà. Alors, moi, je le situe beaucoup plus largement entre deux grands événements, deux grandes secousses considérables que sont, au début du XVIe siècle, ça commence évidemment fin XVe, les grandes découvertes géographiques des Espagnols et des Portugais. Ensuite, les découvertes cosmographiques du milieu du XVIe siècle. Et, si on pousse un peu les limites de ce que l'on peut appeler légitimement baroque, il y a une autre grande secousse qui est préparée peut-être à cette époque-là, et j'ai la faiblesse de le croire, mais je ne pourrais pas le développer, qu'on appelait la Révolution française. Donc, d'un côté, il y aurait comme frontière très très large, bien sûr, les découvertes géographiques et cosmographiques, et l'exploration de la Terre et du Ciel, si vous voulez. Et ensuite, cette grande secousse qui est préparée pendant cette longue, longue période que l'on appelle baroque, où il y a des contestations, des régimes en place, de la religion, des monarchies, et qui débouchent en France emblématiquement sur la Révolution. Alors, les découvertes géographiques, pourquoi c'est très important? Vous savez que les anciens considéraient que la Méditerranée était une mer fermée. Et la légende prête à Hercule, voyez Hercule le grec, qui est allé en Afrique et en Espagne, ce que nous appelons aujourd'hui Afrique et Espagne, et il avait écrit en latin, vous voyez, c'est une conséquence assez amusante, il avait écrit Nec plus ultra, ce qu'on appelait les colonnes d'Hercule, d'un côté l'Espagne, de l'autre côté l'Afrique, et les colonnes d'Hercule, des deux côtés, où il aurait écrit il n'y a rien, plus rien au-delà, rien au-delà, Nec plus ultra. Voilà. Le grec qui s'exprime en latin. Eh bien, les Espagnols, par leur découverte, vont prouver qu'il y a quelque chose plus ultra, le mot outrance vient de passer outre. Et même Charles Quint, le plus grand monarque que l'histoire ait connu, eh bien, lui mettra sur son blason, sur ses armes, la devise plus ultra, en français. Voilà donc que l'on découvre ce qu'on va appeler le nouveau monde, un monde nouveau qui, quand on découvre un monde nouveau, évidemment, frappe le nôtre, l'Europe, de caducité, et l'Europe devient l'ancien monde. On va opposer le monde nouveau et le nouveau monde. Et étant donné qu'à cette époque, 16e siècle, où on continue l'expansion coloniale, les découvertes, les explorations, qui vont se poursuivre pendant des siècles, bien sûr, eh bien, il y a un autre rêve qui se crée, une utopie, l'Amérique devient le lieu des utopies. Tout ce qui a fait faillite en Europe, notamment la religion, le christianisme, puisque c'est l'époque, le 16e siècle, la grande séparation, le schisme entre protestants et catholiques. L'Europe se déchire, s'entretue, au nom d'un même Dieu d'amour. Eh bien, on va imaginer que ce qui a fait faillite ici, on va pouvoir le créer là-bas, puisqu'on pense qu'on va trouver le paradis terrestre. Voilà, un paradis sur Terre. Et les îles, souvent, vont prendre cette image de paradis sur Terre. Donc, à monde nouveau, on rêve d'un homme nouveau. Voilà une grande utopie, un grand rêve qui est celui de ce peuple-là. Et je vous livre, parce que je crois, les mots ne sont que des mots, et je vous donne un exemple pour imaginer ce que m'amènera au développement ultérieur, ce que ça pouvait être que traverser l'Atlantique. Tout le monde le sait, Christophe Colomb ne savait pas où il allait, et il a mis 3 mois pour découvrir ce qu'il lui-même ne savait pas, il n'appelait pas un continent, il croyait que c'était des îles du Japon. Bien. Eh bien, je vous donne quand même des références, parce qu'il faut le savoir. Lorsque les Espagnols ont découvert le régime des vents alisés réguliers qui permettait d'aller plus vite de l'Amérique à l'Europe, alors c'est une devinette que je pourrais vous poser, mais on n'a pas le temps d'entendre vos réponses, je vous donnerai la réponse tout de suite. Alors imaginez le temps qu'il fallait pour aller de Séville, qui était la capitale de deux mondes, parce que c'est une ville richissime, la ville la plus riche, la plus peuplée pendant plus d'un siècle de l'Europe, et qui était aussi là pratiquement la capitale des Amériques récemment découvertes. Eh bien, un historien français très connu, M. Chaunu, en étudiant tout cela dans les archives de Séville, de la navigation, il y a des documents extraordinaires. Eh bien, ce qu'on appelle la rotation d'un bateau, c'est-à-dire départ de Séville, arrivé au Mexique, donc à Veracruz. Veracruz, donc c'est la côte atlantique du Mexique. Et retour à Séville, ce qu'on appelle une rotation, avec les escales, ça avait été à La Havane, après une rotation, dont la moyenne d'une rotation entre Séville et Veracruz, c'est-à-dire aller-retour, réparer le navire, charger, décharger, mais tout de même, eh bien, je n'attends pas vos réponses, vous savez combien ça durait? Non. 5 ans. La rotation moyenne. 5 ans. Voilà. Pour mesurer les distances. Et de l'autre côté du Pacifique, lorsque de la ville d'Acapulco, les Espagnols qui avaient aussi conquis les Philippines de l'autre côté, en Asie, eh bien, il y avait un seul bateau, la nef de Chine, on l'appelait, qui apportait le courrier des Philippines à Acapulco. Eh bien, pour traverser le Pacifique, et je ne vous parle pas là de rotation, pour traverser le Pacifique lorsqu'il arrivait. Il y avait tempête et tout. Eh bien, c'était un an. Un an. Voilà. Je vous donne ça pour que vous imaginiez l'échelle par rapport à notre époque. Et les Espagnols, puis les Portugais, les Espagnols qui découvrent ces pays, qui découvrent l'Amérique, se rendent compte que les montagnes sont incommensurables pratiquement avec les nôtres, les fleuves sont comme des mers, les tempêtes, nous avons eu quelques tempêtes, mais c'est rien par rapport aux tornades, par rapport aux ouragans, tout ce qui se connaît dans ces pays-là. Eh bien, évidemment, ici nous avions la tradition grecque où l'on nous disait que la nature, le monde est à la mesure de l'homme, les Grecs. L'homme est la mesure du monde. Ce qui voulait dire, en fait, concrètement, hein, on mesure un pouce, vous le savez, en lampant, en coudé, en pied. Bien, le monde était à la mesure de l'homme. Et là, évidemment, nous sommes dans un monde complètement une autre échelle. Un monde démesuré. Complètement démesuré par rapport à tout ce que l'on a pu connaître. Alors, les distances. On a fait le tour. Magellan, c'est le reste de l'Espagne, a fait le tour. Il n'a pas vu puisqu'il est mort au milieu, mais il a fait le tour de la Terre. Il a prouvé que la Terre était ronde. Et qu'arrivé, finalement, les Espagnols qui ont fait ce tour du monde, très souvent, il y a un grand retour monastique, finalement, ils découvrent que finalement, on revient au même point et que le plus grand des voyages, c'est celui immobile que l'on fait au fond de soi. La découverte aussi, ce qu'on dira, avec les mystiques, déjà de la psychologie des profondeurs, sinon la psychanalyse. Voilà pour la Terre. Pour la cosmographie, c'est pareil. La cosmographie, on vivait sous le système grec ancien de Ptolémée, et au milieu du XVIe siècle, vous avez Copernic, qui est un Polonais, qui est à Rome, qui est dédié au pape, un travail, il n'y avait pas d'observation directe des astres. Direct, évidemment, indirect, simplement par l'observation nocturne qui est sans lunettes, sans rien. Eh bien, lui découvre que finalement, que on croyait jusque-là, le système ancien, que la Terre était au centre de l'univers, fixe, et toutes les planètes tournaient autour de la Terre. C'était la création de Dieu, et Dieu, dans sa septième sphère au-dessus, contemplait sa création, et au milieu de cette création, cette Terre immobile, il y avait l'homme. Eh bien, lui découvre qu'en fait, c'est le Soleil, mais pas, évidemment, par les mathématiques, hein, les calculs abstraits. Il découvre que, finalement, c'est le Soleil qui est fixe et c'est la Terre qui tourne autour. Ce n'est pas une grande. C'est vraiment une révolution au sens strict, puisque c'est faire un tour, mais il se trouve que finalement, c'est une circularité, c'est le Soleil qui est au centre, c'est la Terre qui tourne autour, les planètes tournent autour, et tout cela est très harmonieux, puisqu'on considère, depuis les Grecs, que la sphère, que le cercle, ce sont les figures parfaites, les figures pratiquement de la divinité. Et le Soleil au centre, on peut très facilement le transposer en Dieu. Ça devient le Dieu. Voilà. Mais pour arriver à cela, il arrive à des calculs qui montrent que la Terre, que le cosmos, ce qu'on a le ciel, a des dimensions que l'on ne soupçonnait pas jusque-là. Immense. Parce que selon la Bible, selon la religion, la Terre était, le ciel avait aussi des limites. Bien. Alors, nous arrivons à la fin du siècle. Ce sera ce qu'on va appeler le siècle baroque, à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle. Et voilà que Kepler, lui, notre grand astronome, découvre que non, la Terre ne décrit pas, les planètes ne décrivent pas des cercles parfaits, mais des ellipses. Et l'ellipse est considérée comme une figure aberrante. On ne peut pas la faire au compas. Et ça explique des choses, évidemment, de la cosmographie, l'été, l'hiver, parce qu'on se rapproche du Soleil, il y a deux foyers dans l'ellipse, on s'éloigne, on se rapproche du Soleil. Et là, évidemment, c'est un grand bouleversement, puisque cela contredit tout ce que l'on a cru jusque-là, mais explique certaines choses. Mais, encore une fois, c'est le cosmos a des dimensions complètement insoupçonnées, encore plus grandes que celles qu'avait trouvées Copernic. Un grand savant, en même temps, Galilée, lui, découvrira que la Terre tourne sur elle-même, comme un possédé. Donc, voilà ce qu'on appelle cette espèce d'entrée un peu allégorique, si vous voulez, dans ce stage qu'on va appeler baroque, avec ce qu'on a appelé un décentrement. La Terre n'est pas au centre, l'homme n'est pas le centre, et il n'y a pas de cercle, il y a des ellipses. Et je vous signale qu'en 1600 exactement, je pense qu'il y a des événements très importants qui se passent, un philosophe aussi, qui est cosmographe, italien Giordano Bruno, qui est poursuivi dans toute l'Europe, on le poursuit partout, et brûlé en place publique à Rome, Campo dei Fiori, parce qu'il a osé dire que peut-être que le cosmos est infini, l'infini, mais ce qui est infini. Ce qui n'a pas de limite, c'est l'infini. Et seul Dieu, selon la religion, peut se dire infini. Et même Descartes dira, ma pensée qui est finie, qui est limitée, ne peut pas comprendre, embrasser l'infini. Et bien, Giordano Bruno est donc brûlé pour hérésie, pour avoir osé insinuer que le monde était, peut-être que l'univers était fait de mondes infinis, donc un mot qui était tabou. Voilà donc cette entrée dans cet âge baroque et qui est au constat de bouleversement. Alors, il y a des réactions que je vous dis aussi, parce que, rappelez-vous Pascal, a une formule que sans doute vous connaissez, mais qui n'est pas à lui, elle traîne depuis le Moyen-Âge partout, que l'univers, lui osera dire, enfin, on peut le dire à ce moment-là, est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Et en ces années 1600 aussi, on vient de faire de grandes découvertes. Le microscope, qui permet de voir ce qu'on considère comme l'infiniment petit, et le télescope, qui permet à Galilée de voir des astres comme on les avait jamais vus auparavant. Donc, l'infiniment grand et l'infiniment petit, ce qui permet à Pascal de dire l'image que l'homme n'a pas d'assise sur cette terre, il est entre deux infinis, dans un monde, un univers qui est peut-être aussi infini, donc quelque chose, c'est un moment troublant pour une pensée qui était habituée, on est là, Dieu nous a mis là, au centre de la création, et l'homme est le centre de tout. Et là, nous sommes perdus dans cet espace, comme les petits microns qu'il voit dans son microscope. Alors, c'est une époque aussi de crise. Pour que vous compreniez ce que ça peut être, cet âge baroque, la crise est religieuse, je vous l'ai dit. Les protestants et les catholiques qui se déchirent. Dans le dernier tiers, enfin, dans le milieu du XVIe siècle, il y a, contre la réforme, s'instaure ce qu'on appellera la contre-réforme, 18 ans de concile, qui commence en 1545. Et c'est à ce pape-là, Paul III, que Copernic dédiait sa cosmographie, et qui finit en 1563 pour une réaction militante contre le protestantisme. Donc vous savez que les protestants discutaient certains dogmes, bien sûr, mais aussi le culte des images religieuses, c'est-à-dire l'image en tant que toute représentation, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la peinture, etc. Alors, le Concile de Trente, face à ce drame terrible sépare les catholiques, les chrétiens catholiques et protestants, essaie de garder de récupérer les protestants, les Espagnols et Portugais essaient de convertir des païens, les Indiens, etc. Et l'Église catholique veut aussi conserver dans cette religion discutée, très discutée, par les protestants, les chrétiens qui pourraient encore douter, notamment les jésuites raccrochent maintiennent la Pologne dans l'orbe, dans le système catholique. Eh bien, il y a cela et ce concile de Trente, qui est très important pour la diffusion de cet art du Maroc, le concile de Trente va réagir à l'austérité protestante, où on brise les tableaux, on brise les statues de représentation de saints auxquels ne croient pas les protestants, et bien va réagir par ce qu'on appellera une théâtralisation de l'Église, de la musique, du faste, d'une prolifération d'images pour conserver les gens, pour qu'ils aillent à l'Église avec plaisir. Sans doute, peut-être des exemples. Il y a un autre événement très important. Je vous dis en passant aussi, la rhétorique, c'est une époque de rhétorique intense. La rhétorique aussi avait trois buts. Docere, ça vous le savez-vous. Docere, ça veut dire enseigner. Moere, émouvoir et délectare, faire plaisir. Donc, le Concile de Trente utilise cette rhétorique à tous les niveaux, la musique, l'architecture, la peinture, la littérature, le théâtre, etc., pour essayer de délectare, de faire plaisir, mais en enseignant. En enseignant. Parce que c'est par le plaisir que, évidemment, ce qui ne résulte pas, qui fait que l'on retient les termes. Donc, les mauvais, les dont les sermons même deviennent des morceaux de bravoure, pratiquement très spectaculaires et non très théâtraux. La crise, évidemment, la religion et la politique sont mêlées à cette époque-là, et les politiques. Charles Quint voit son empire déchiré entre protestants et catholiques, c'est l'exemple. Mais il n'y a pas que ça. À l'extérieur, il y a le péril turc. Les Turcs ont débarqué au XVIe siècle près de Naples. Près de Naples. Ils sont de l'autre côté de la mer Tyrrhénienne, c'est la Turquie. Les Turcs ont assiégé Vienne en 1520. Charles Quint est obligé de faire la paix avec les princes protestants qu'il a vaincus pour aller avec eux sauver Vienne. Budapest qui tombe dans les mains des Turcs, une des sœurs de Charles Quint voit son mari, le roi de Hongrie, décapité sous ses yeux par les Turcs. Et donc, les Turcs, par la Méditerranée et par l'Europe centrale, prennent l'Europe en tenaille. Donc, il y a cela. Il y a cette époque-là, cette époque dont je vous parle, est une crise de tous les repères, des pères, que ce soit le pape qui est disputé par les protestants, les monarques qui sont disputés partout, il y a des guerres civiles, des guerres religieuses, qui sont des guerres civiles qui mettent en cause le pouvoir, la légitimité des princes. Donc c'est une époque où tous les repères sont complètement bousculés. Alors la réaction, et pour moi le baroque serait un constat de ces bouleversements. Il y a des réactions par l'action. D'abord ce monde immense que l'on découvre sans arrêt, eh bien, et on voit les Espagnols, que j'ai étudié de très près, j'ai fait un gros livre sur l'infini. Les Espagnols, évidemment, sont des savants, vont mesurer, vont cartographier pour la nécessité coloniale ce monde-là. C'est-à-dire qu'on va raisonner ce monde étrange, ce monde démesuré, on va essayer de le raisonner, mais pour la raisonner, pour la prendre possession, évidemment, de façon coloniale. On explore pour exploiter, à l'évidence. Donc, c'est un peu cette époque-là active du Maroc, très active, et là, on veut brasser, que ça veut dire brasser, prendre dans les bras aussi, embrasser, mais finalement, c'est se mesurer à la démesure de ce monde, brasser. Donc, et embrasser, donc réduire au plus près de notre corps un ordre nouveau du monde, chaotique, qu'il faut aussi nommer, qu'il faut mesurer de façon minutieuse. Et je dirais de raisonner pour arraisonner de façon commerciale. Et, je vous ai dit, l'Espagnol fait le tour du monde, on cartographie, on découvre sans arrêt des îles, on découvre, pas encore, mais on a des certitudes au début du 7e siècle, la Terre inconnue australe, peut-être l'Australie, sans le dire, évidemment, tout cela est secret. Et, ceci fait, une fois qu'explorer le monde ou on continue d'explorer, eh bien, ce n'est pas suffisant pour cette ambition de cette époque baroque. Il y a d'autres terres à conquérir. Et ces terres, c'est quoi? Il y a toujours les images géographiques derrière, dans les romans mondains géographiques, c'est la psychologie. On s'interroge sur les pensées. On fait beaucoup de pensées, c'est l'époque où on écrit les maximes. Les pensées, c'est la psychologie, c'est les mystiques, je vous disais, les terres inconnues de l'âme et de l'esprit. Le grand jésuite Balthazar Gracian fera un livre qui s'appelle « Art et figure de l'esprit », une répertorie, comment fonctionne le mot d'esprit. Les mystiques s'interrogent évidemment sur l'âme, les mondains dans les salons français, entre autres, c'est sur la psychologie. La psychologie, voilà des terres inconnues que l'on est en train aussi de baliser, de découvrir, et essentiellement, parce que ça c'est le trait du baroque, c'est l'âge des passions, ce qu'on appelle les affects, les émotions. Même Descartes, qui est un grand savant, écrit un traité des passions. On prête à Pascal, qui est un non moins grand savant, un traité des passions, même si ce n'est pas lui qui l'a fait aussi. Alors, partout, on écrit des traités sur les passions. Les passions, c'est quoi? Sur résume, hein, bien sûr, qu'est-ce que c'est une passion, on considère à cette époque-là, ce serait, ce que je dirais, je pourrais simplifier, la traduction externe physique par le corps d'un mouvement, d'une émotion intime des passions. On se trahit, la peur, ou vous fait rire, vous riez, tout ça traduit un mouvement intérieur et une émotion. Et à une époque, évidemment, monarchique, où les cours, après tous les troubles civils qui ont agité toute l'Europe, les cours se referment, les monarchies deviennent absolues, on théorise la monarchie absolue, d'abord l'Espagne, ensuite la France. Et évidemment, dans cette société de cours, il est très important évidemment de dissimuler ses passions, dissimuler ses ambitions, dissimuler ses craintes. Donc voilà la nécessité du masque, alors que tout le monde se passionne pour les passions. Et d'ailleurs, il y a des traductions, d'ailleurs, vous voyez dans les tableaux de cette époque dite baroque, il y a un grand architecte, peintre et architecte Lebrun qui fait traiter les passions, disons, dans les visages. Et tous les tableaux que vous voyez, les tableaux dits baroques, eh bien, les personnages expriment les passions, les couleurs. En rhétorique, on dit couleur aussi, c'est un ornement. Et les couleurs sont symboliques, et les couleurs, en général, on dit celui qui est pâle, celui qui a peur, celui qui est malade, etc. Et vert, être vert de peur, on le dit encore. Et bien, tout cela est codifié, ça traduit les passions. Et le théâtre dont je vous parlerai, bien sûr, c'est le lieu où l'on montre un acte des passions. Alors, ce baroque, donc, ce que j'appelle baroque, il y a la prise en compte de ce monde décloisonné, de ce monde fou, peut-être à force d'excès, tellement il est démesuré, tellement il est grand, et en même temps, une tentative de compter, de mesurer, de théoriser, puisqu'on fait des théories sur les patients, on fait des théories sur les mystiques aussi, essayer de traduire ce qu'ils éprouvent par des images, Sainte-Thérèse d'Avila, donc de réduire à l'art, c'est-à-dire la technique, à la technique, à la théorie, tous les débordements inouïs, inouïs ça veut dire qu'on n'a jamais entendu, et tous les débordements inédits qu'on n'a jamais dit. Donc, c'est dire l'inouï, dire l'inédit et l'inouï, ce qu'on n'a pas entendu, ce qui est jusque-là, tout ce qui a été, qui est différent, et jamais accordé par la parole. Autre chose aussi, c'est le culte de la nouveauté. Sinon, on ne comprendait pas pour moi ce qu'est cette époque dite baroque. Culte de la nouveauté, évidemment, quand on change de siècle, on dit toujours le siècle nouveau, le siècle dernier, le siècle passé. Au début, entre le 19e et le 20e siècle, on appelait art nouveau, Jugendstil, style de la jeunesse pour les Allemands, Liberty pour les Italiens, Art Nouveau pour les Français, l'art qu'on appelle souvent 1900, à cheval entre le 19e siècle, évidemment, tout siècle se sent comme nouveau par rapport à l'autre. Et bien là, c'est aussi pareil, mais il y a des choses beaucoup plus fortes que je vais vous dire. On continue d'explorer, de découvrir le nouveau monde. Et un nouveau monde, eh bien, on fonde sans arrêt des villes. Je vous donne un passage en bout des terres. Évidemment, on ne coupe pas les amarres avec l'ancien. C'est trop. La nouveauté fait toujours peur. Mais vous allez voir, je vous donne juste quelques noms de pays, de régions. Ben, on découvre, là, on appelle la Nouvelle-Espagne, ce qui aujourd'hui serait la Colombie, le Venezuela. C'est la Nouvelle-Espagne. Il y a la Nouvelle-France, au nord de l'Amérique. Il y a la Nouvelle-Zélande, ailleurs. Partout, on trouve, si vous regardez, pour vous amuser à regarder les villes d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, vous regardez, on a repris beaucoup de noms de villes du vieux continent, mais en appelant d'abord nouveau, Terre-Neuve, les Nouvelles Hébrides, etc., etc. Donc, voyez, un goût de la nouveauté, mais qu'on essaie évidemment de raccorder par prudence toujours à l'ancien. Alors, l'art et les sciences, alors là, oui, c'est des révolutions. Je vais parler de Kepler, 1600, Astronomia Nova, la nouvelle astronomie, 1600. 1600, dans l'art, Caccini, à l'Italie, à Florence, Musiche Nove, les nouvelles musiques, la musique de ce temps par rapport à la précédente, la prima pratica. Vous avez encore la nouvelle géographie qui récuse le vieux système de Ptolémée. Vous avez au théâtre, c'est la question, Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, dont je vous parlerai tout à l'heure, de Lope de Vega, Arte Nuevo, art nouveau pour faire du théâtre pour notre temps. C'est le théâtre anti-aristotélicien. Aristote, ça faisait 2000 ans. Et nous sommes en 1600, un nouveau siècle. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est un théâtre dans polymétrique, c'est dans ce qu'on appelle le baroque, un peu à tort, parce que même ce qu'on dit classique, et moi aussi, je le rattache au baroque. Eh bien, ce théâtre, en 1610, déjà en Espagne, d'ailleurs, je vous citais tout à l'heure Giordano Bruno, qui a été brûlé, il était aussi auteur de théâtre, et bien avant, il avait dit qu'il fallait rompre, avant le 1600, qu'il fallait rompre avec le théâtre aristotélicien, qui ne servait plus pour notre époque. Eh bien, si l'on regarde tous ces auteurs, musiciens, artistes, poètes, etc., etc., j'ai beaucoup étudié dans notre livre, dans celui-ci, dans le plan des certitudes, il y a énormément de ces... Personne ne s'appelle baroque, puisque le terme n'existe pas. Pas plus qu'il n'y a d'auteurs du XVIIe siècle qui se nomment classiques. Tout ça sont des appellations, des étiquettes très tardives du XIXe siècle. Par contre, tout ce que nous appelons aujourd'hui, nous, auteurs baroques, se définissent tous, s'appellent modernes. Moderne. Voilà le mot. La passion de cette époque, moderne. Et ils se définissent contre les anciens, qui sont les tenants de l'imitation. Le baroque, ce sera toujours dans la rhétorique, l'invention contre l'imitation. Vous savez que ce qu'on appelle, je mets beaucoup de guillemets, les classiques, eux prônent l'imitation des anciens. Et on les appelle les anciens. Et donc, la querelle des anciens des modernes qui en France apparaît vers la fin du XVIIe siècle et qui déborde sur le XVIIIe siècle, en Espagne, en Italie, est tranchée dès le début du XVIIe siècle par le triomphe des modernes contre les anciens, contre l'imitation mythique. Personne ne le rejette, même parmi ceux que nous appelons baroques, les auteurs anciens, bien sûr. Mais à partir de là, on fait preuve d'originalité et ne pas suivre, ne pas imiter, est considéré comme vraiment une faiblesse des créateurs, de la création. Alors, les thèmes. C'était madame le professeur d'allemand qui demandait. Alors, bien sûr, on a les thèmes, ce sont des formes, hein, bien sûr aussi. Alors d'abord, ce sont les héros grandioses. Évidemment, quand on a, c'est toujours une suite de la Renaissance. On a toujours le culte, évidemment, de l'Antiquité, de l'épopée, des grands héros des épopées, des Alexandres. Qui n'est pas héros d'épopée, mais des héros antiques, Alexandre, César, et les héros de l'épopée, d'Homère, évidemment, comme Achille, Hector, etc. Eh bien, ces héros, ces conquistadors, ces hommes de ce temps, les plus grands, eux aussi se prétendent, on appelle ce général est un nouvel Alexandre. Charles Quint, on appelle partout en Europe, hein, pas simplement en Espagne, le César. Le César. Donc, il y a des héros qui sont grands pour un monde qui est grandiose. C'est l'époque où on évoque sans arrêt les titans. Vous savez, c'était les géants qui s'étaient révoltés contre Jupiter. Et évidemment, sous couvert de cette métaphore, c'est tous les grands féodaux qui se révoltent contre les monarques qui sont les Jupiter. Donc, voilà des hommes grands pour un monde démesuré. Il y a ce qui nourrit aussi la création, c'est évidemment le fabuleux mythologique des anciens, païens. Tout cela, c'est la culture de chacun. Mais il y a aussi une chose nouvelle, c'est le merveilleux chrétien. Au début du XVIe siècle, il y a un poème qui est un roman en vers très 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 long de l'Arioste, ou de l'Arioste italien, Orlando Furioso. Roland furieux, eh bien c'est le modèle de tout ce qui se prétend de grands hommes. C'est le modèle, mais il faut savoir que on va en traversant en cours le monde, on va sur la Lune, arrive le cheval Pégase, il y a des espoirs seulement complètement, comme dire aujourd'hui, des romans de science-fiction. C'est ce genre de héros. Et à la fin, presque au dernier siècle du XVIIe siècle, le XVIe, à l'entrée de l'âge baroque, vous avez aussi, c'est le modèle du théâtre, c'est le modèle des héros, c'est le modèle des opéras, c'est la Jérusalem délivrée, Jérusalem liberata, du Tasse, notre grand poète italien. Et tout, ça sert pendant deux siècles de modèle au théâtre, de modèle à l'opéra. Alors voilà à quoi l'on se mesure. Le fabuleux païen et le merveilleux chrétien qui nourrissent toute cette pensée. Les Espagnols, évidemment, ont leur cid. Alors, les pièces sur le cid, il y en a, hein, donc ça déborde très très loin. Et Don Juan, c'est pas lui, on ne voit pas ici, Don Juan, qui lui se mesure à qui ? À quoi ? Au commandeur qui représente l'éternité, qui le défie. C'est le défi de l'immanence, c'est-à-dire de notre caducité. Il est homme, donc il a un début, une fin. Au commandeur, qui est une statue, mais qui représente l'éternité, puisqu'il est mort, et qui représente Dieu. Voilà une espèce de défi grandiose. Voilà donc les personnages grandioses, si vous voulez, pour le thème, mais qui s'inscrivent dans des formes. Rappelez-vous, vous connaissez les héros cornéliens, très inspirés de l'Espagne, qui ne parlent que du monde. Ils sont face au monde, de leur gloire, leur honneur, de l'univers, même chez Racine. Que dira l'univers ? Voilà. Bon, on a les figures, je vous en défends, les hyperboles, ce qu'on appelle les figures de l'excès, l'exagération, l'hyperbole, pour des héros vraiment qui sont hors commune mesure. Louis XIV, tout simplement, on l'appelle aussi le plus grand roi de l'univers. Même si l'univers se réduit à la France et à un peu à l'Europe. Mais c'est une chose considérée comme normale. Et tous ces héros qui sont avides de gloire, de renommée, et qu'est-ce que c'est que la gloire, la renommée ? Eh bien, c'est une image terrestre, profane, de l'éternité religieuse, puisque c'est vouloir vivre dans la mémoire des hommes, éternellement dans la mémoire des hommes, faire de grands espoirs, de grandes actions, pour être éternisé dans la mémoire des hommes. Donc, ces héros, nourris de fables, nourris de littérature, mais là, face à la religion condamne cela, et les renvoie à leur démesure, à la mesure humaine, la caducité, la mort, le néant. Et la religion prêche, et c'est une époque de grande prédication après la contre-réforme, que tout cela n'est que vanité, vanité de vanité. On exhume là, évidemment, tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, il y a Salomon, vanité des vanités, et que donc on les confond à l'illusion du pouvoir, l'illusion de grandeur. Donc, la religion ne cesse de saper, de miner le réel. Il y a ce monde-ci, mais qu'est-ce que c'est que ce monde-ci ? Il ne vaut rien, il est valorisé. C'est l'autre monde, on est donc entre deux mondes. Et l'illusion, c'est le corps, la chair, face à l'âme, face à l'au-delà. Voilà, donc cette espèce de déchirement et le discrédit du réel. Et l'ascétisme religieux qui prêche la vanité, tout cela, le néant, ça rejoint notre mode, une mode profonde aussi, philosophique, depuis Platon, ben, il y a l'idée, et puis il y a la matière, et la matière c'est quoi ? C'est la dévaluation de l'idéal, de l'idée. Rappelez-vous le mythe de la caverne. Nous sommes quoi ? Ben, on voit des personnages sur le fond d'une caverne, et voilà, c'est déjà le théâtre. Mais nous ne sommes que des ombres. Ensuite, donc voyez bien que tout ça, le réel, est sapé, est miné. Dans le Nouveau Monde, on découvre que, évidemment, le vrai peut parfois n'être pas vraisemblable. Si vous êtes allé en Amazonie, moi j'y suis allé, c'est sûr que c'est impressionnant. C'est impressionnant, vous êtes sur une pirogue dans une étendue d'eau, vous voyez au loin, vous ne savez pas si ce sont des arbres, ce sont des nuages, il y a des effets d'illusion. Vous voyez, évidemment, vous croyez que c'est une fleur, c'est une plante, vous croyez que c'est une plante, c'est une fleur, un serpent, une liane, et donc il y a toute la nature qui se masque, qui est complètement captieuse, qui trompe. Et on rapporte de là-bas des merveilles des Indes, qu'on appelle les merveilles, des choses rarissimes qu'on n'a pas vues, dans la surprise et l'étonnement. Voilà donc des thèmes. Le monde des images, c'est le monde baroque aussi. Le monde des images, c'est nous vivons dans les images, mais ça commence cela. C'est vraiment notre modernité qui s'instaure à cette époque-là. D'ailleurs, l'imprimerie a connu un essor foudroyant avec Luther. Luther, si vous êtes allé dans sa ville, j'y étais il n'y a pas longtemps, près de Berlin, je suis allé faire une conférence, c'était impressionnant, vous avez son musée, tous les livres qu'il a pu imprimer, il y avait une imprimerie pour lutter contre les catholiques, contre le pape. De leur côté, les catholiques font pareil, il y a une guerre des images, parce que des gravures, les catholiques montrent évidemment des Indiens qui persécutent des religieux, des jésuites, etc. Et tout cela est gravé, et par l'imprimerie, c'est multiplié à une échelle absolument extraordinaire. Il y a des images. Les protestants qui refusent le culte des saints, les images, ce qu'on appelle l'iconoclasme, ils détruisaient, pendant les guerres de religion, détruisaient les protestants, détruisaient les images, les statues, etc. Le concile, la contre-réforme, réagit en réaffirmant dans sa première session de 1445 le culte des images est légitime, ce n'est pas de l'idolâtrie, comme disent les protestants. Donc, on multiplie les images de saints, de personnes pieuses, de martyrs, tous les tableaux, et la dernière session de 1563 du concile, la dernière session aussi, on réaffirme le culte des images. Et l'Église, non, toutes les églises que l'on commence à construire dans tous les tableaux de ce qu'on appelle l'époque baroque, aller en Italie, c'est la profusion des images, des plafonds. Il y a évidemment la technique avance, la science est très importante et je vais vous en parler. Ne serait-ce que pour créer un trompe-l'œil, et même avant de créer un trompe-l'œil pictural, de comment couvrir une coupole, l'intérieur concave, la peinture, comment adapter la peinture à une surface concave. Donc, la science se mêle à tout cela, et il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, le fondateur de la Compagnie de Jésus, les jésuites Ignace de Loyola, joue sur les images dans son livre qui s'adresse donc aux jésuites, et puis après, qui répandent à tout leur collège. Il a une théorie qui s'appelle la construction de lieux pour retrouver la vraie foi, pour retrouver les sentiments religieux, il faut recréer des images mentales, pour recréer les lieux où le Christ a marché, le lieu où tel saint a passé, le lieu des images, les odeurs, l'herbe, les pierres du chemin, l'auberge où s'est tenue la scène, etc. Donc recréer par des images mentales. Sainte Thérèse de Jésus, qui a beaucoup écrit, bien sûr, le livre de sa vie, elle écrit ses extases, ses visions, on lui demande d'écrire, et ça se traduit par la métaphore des images, parce que comment dire l'ineffable, comment dire l'indicible, comment l'exprimer autrement que par des images, et d'autant plus. D'ailleurs, et c'est la métaphore, c'est le règne de la métaphore, je vous ai parlé d'antithèse, je vous ai parlé d'hyperbole, d'exagération, là c'est la métaphore, et les jansénistes, qui sont quelque peu, entrer là-dedans théologiquement auprès des protestants, considéreront que la métaphore, c'est un masque diabolique face au réel. Il y a des positions théologiques qui rejoignent des positions, évidemment, esthétiques. On ne peut pas séparer l'éthique de l'esthétique. Alors, il y a le merveilleux scientifique. Je vous ai parlé. Quand on dit Don Quichotte prend les moulins avant pour des géants, il faut savoir que les moulins de la Manche à ce moment-là, ce type de moulin, c'était une innovation scientifique très grande. Voilà. Quand on dit le télescope, le microscope, les Hollandais avaient pu fabriquer des lentilles qui grossissaient et qui diminuaient. L'Église condamnait cela, puisqu'on disait que c'était diabolique. Alors imaginez quand on colorait les lentilles. On pouvait voir à travers les lentilles un monde de couleurs différentes. Non, c'est un monde irréel. Et l'Église, je vous le dis, condamnait cela comme un jeu extrêmement dangereux. Et j'en finis, c'est que pour là-dessus, c'est que on fait venir la Et l'Italie est à la pointe du progrès scientifique. Hein. L'Italie, les ingénieurs des arsenaux de l'arsenal de Venise et des Florentins, qui sont des ingénieurs, pour le théâtre, parce qu'ils inventent des machines absolument extraordinaires pour créer l'illusion. Et maintenant, on commence à étudier cela, il y a des choses extraordinaires, il y a des pièces où il y avait des éruptions volcaniques, la fumée qui était des parfums, il y avait des inondations, le Vernin, le grand sculpteur, le grand qui était ingénieur et homme de théâtre, a laissé chez les Romains une espèce de terreur, parce qu'il avait créé une inondation, donc par illusion. Il y a des effets qu'on appellerait aujourd'hui des effets spéciaux. Alors voilà dans ce monde des images, ce monde scientifique, évidemment, et tout cela, et là on va le retrouver dans le théâtre. Là je vous parlais en fait du théâtre baroque, parce que tout cela va être mis en scène, parce que depuis le début du XVIe siècle, il y a un retour à Aristote, pendant tout le siècle, à sa rhétorique, à sa poétique sur le théâtre. À la fin du XVIIe et XVIe siècle, à Florence, on veut recréer la tragédie antique qui était chantée. Ça donnera ce qu'on appellera l'opéra. Mais on s'interroge là-dessus. Comment représenter, comment représenter une passion? C'est essentiellement les passions. Et ce sont des spectacles fastueux aussi. Non seulement il y a évidemment les acteurs, les chanteurs, mais il y a aussi la musique. Alors tous ces thèmes, ces jeux des apparences, ce monde plus grand, plus petit, ce monde d'ici, le monde de là-bas, le monde des métamorphoses héritées des anciens, tout cela on le retrouve dans le théâtre dit baroque. Les jeux de l'apparence, de l'être, du paraître, tout le monde connaît, c'est un lieu commun. Mais même Descartes, je pense, dont je suis, et ça vous le trouvez partout. Le monde est un théâtre. Sigismond que vous verrez ici, tout à l'heure, dans la vie est un songe. Le théâtre, c'est le lieu où l'on monte. On monte une pièce de théâtre. Et on monte la montre, on montre. Et on monte la montre. Montre, que signifie montre? Enfin, vous savez aujourd'hui. Mais la montre, en français, c'était parce que ça appelait la mostrance, parce qu'on en faisait étalage de sa montre. Vous avez vu ma Rolex. Voilà. C'est la montre. Ça s'appelle pour ça parce qu'on faisait étalage ostentation. La mostrance. Donc, il y a tout cela. Décors, costumes symboliques, et évidemment ça arrive à symboliser la vie puisqu'il y a forcément l'envers du décor. L'envers du décor à la fin, et ça nous renvoie évidemment à notre caducité telle que la prêche des religieux. Je vous parle du grand théâtre du monde. Il y a une tradition très très lointaine qui remonte aux anciens où le théâtre c'est la métaphore de la vie, c'est Sénèque le dit. Nous jouons tous des rôles ici-bas dans une pièce de théâtre. L'essentiel, c'est de bien la jouer, mais c'est une pièce qui finit par la mort, forcément. Vous l'avez cela, évidemment, dans Shakespeare. The world is a stage. Vous l'avez sans arrêt dans le théâtre espagnol, sans arrêt. Il y a le grand théâtre du monde dont Calderón, le grand dramaturge espagnol, fait une pièce religieuse, un auto sacramental. Le grand théâtre du monde, c'est Dieu qui est l'auteur. Et l'auteur, à cette époque-là, signifiait celui qui écrivait la pièce, le metteur en scène qui mettait la pièce en scène, et aussi le directeur de la troupe de théâtre. Et Dieu distribue les rôles. Vous savez ce que signifie le rôle? C'était ce qu'il devait interpréter, à rouler, c'est un rouleau, le rôle. Hein. Donc, distribue au hasard, aux hommes, le rôle, et certains ne sont pas contents, il y a le pauvre, il y a le riche, etc. Et l'essentiel, Dieu, qui est l'auteur, qui est le metteur en scène du grand théâtre du monde, ensuite devient le spectateur qui va juger ceux qui vont jouer bien ou mal leur rôle. Donc, une espèce de conformité par rapport à ce que l'on attend. Vous avez le théâtre qui est aussi un grand lieu commun du baroque. Si vous connaissez Hamlet, il monte une pièce de théâtre, Hamlet, sur les instructions de son père, du spectre de son père qui a été assassiné. Il montre l'assassinat de son père, et c'est-à-dire que c'est le faux, c'est le théâtre qui fait devenir la vérité, puisque son oncle, qui est devenu roi, s'avère être l'assassin. Vous avez aussi, dans La vie est un songe, une pièce toute montée contre son fils par le roi pour montrer que son fils est un monstre qu'il a intérêt à le garder dans la tour. Vous avez le théâtre dans le théâtre aussi chez Corneille, l'illusion comique, comique signifiant qui relève des comédiens, où un mage montre à un père éperdu qui recherche son fils, que son fils court un grand danger, mais il ne dit pas que ce qu'il voit est une pièce de théâtre. Vraiment la fascination pour ce théâtre. Autre chose aussi, peut-être, malheureusement, on ne l'étudie pas, c'est un peu plus difficile que certaines pièces de Corneille, c'est Genet. Savez-vous qui était Saint-Genest, C'était un comédien romain du IIIe siècle qui a joué un rôle de chrétien et qui s'est converti et a été martyrisé. Donc, il y a beaucoup de pièces là-dessus. En France, je vous en donne deux, celle de De Fontaine en 1645 qui s'appelle L'illustre comédien ou martyr de Saint-Genest, et puis une pièce bien plus connue de Jean de Rotrou, Le véritable Saint-Genest, comédien et martyr. Voilà. Un comédien converti par le personnage, par le rôle qu'il joue. Évidemment, le comédien abandonne, comme dans le grand théâtre du monde, à la fin ses attributs, dépose son costume, et évidemment, et après, on voit l'envers du décor qui nous renvoie donc à notre misère, une misérable condition humaine. Pour ce qui est du théâtre baroque, il faut se défaire d'un lieu commun qui traîne partout. On croit que c'est un théâtre libéré, un théâtre libre. Pas du tout, il y a des règles. Seulement, on récuse les règles d'Aristote, les règles fameuses des unités, je vous ai dit, Lope de Vega demande un art nouveau pour faire du théâtre à notre époque, dit Aristote a ses vécus, perd de lui tout respect. Donc, la structure, c'est-à-dire trois journées, on dirait trois actes, évidemment. Il est structurellement polymétrique, c'est-à-dire qu'il y a des vers longs, des vers courts, selon les situations, selon les personnages qui s'expriment, mais tout cela est extrêmement codifié. Il y a un mélange des genres, il y a le comique, il y a le tragique, comme dans la vie. Et Victor Hugo, dans la préface de Cromwell, qui signe, c'est le manifeste du théâtre romantique, s'inspire de Lope de Vega. Il n'y a pas d'unité de lieu parce qu'on trouve que c'est artificiel, que tout se passe. D'ailleurs, Aristote, c'est très souple, Aristote, quand il dit le lieu, c'est une ville. Quelques Français réduiront après dans un lieu, une espèce de hall de gare où les amis, les ennemis, les amoureux, ceux qui sont jaloux, tout le monde se retrouve au même endroit. On ne sait pas pourquoi. Vous saviez, dans Bérénice de Racine, Antiochus, son confident, dit, voilà, ici, c'est le cabinet où Titus va voir la reine en secret, réservé, mais ça fait rien, il est en secret, mais lui est là. Il se trouve là alors qu'il aime Bérénice. Bon. Alors, tout cela est très discuté, mais dans le théâtre, dont dit baroque, je le dis par facilité, parce que le théâtre classique ne l'est pas moins, je vous le dirai en quelques mots, dans ce théâtre-là, on change de lieu selon les nécessités de l'action. Et Cervantes dit que le théâtre, une pièce de théâtre, une comédie, doit être une carte de géographie. Les gens passaient d'un lieu à l'autre, imaginez qu'on n'ait pas toujours des décors. Hein. Il y a des décors symboliques souvent, mais ça ne fait rien qu'on soit, qu'on passe d'Amsterdam à Naples, etc. Également, on mélange des genres, comiques, tragiques. Le confident ou le valet du jeune héros, qu'on appelle évidemment le jeune premier, ou la jeune première, hein, ou qui ont le second premier, le second jeune, ou la seconde, ce sont un autre couple parallèle, qui a aussi des actions souvent contradictoires, le couple d'amoureux au premier plan. Il y a souvent le valet et la servante qui sont amoureux et qui sont une espèce de parodie du couple principal. Vous le retrouverez tout ça dans Marivaux, dans l'Opéra Bouffa en Italie, et ça vient d'Espagne. C'est un théâtre où l'on mêle aussi, très souvent, la danse, la musique populaire. Faut pas, aujourd'hui, pour des raisons d'économie, le bourgeois gentilhomme, il n'y a pas très longtemps, monté par Benjamin Lazare, on supprime tous les intermèdes de danser et chanter. Ça revient trop cher d'avoir aussi des musiciens, des danseurs. Si vous avez vu la comédie française, Esther, quelquefois on le donne, lorsqu'on a les moyens, avec la musique de scène qu'il y avait, et les chants. Attali aussi, quand on nous présente ça, on nous dit que c'était là. Il y avait aussi ce mélange-là que l'on oublie. Racine, dont on fait le parangon du théâtre classique, voulait rêver de faire un Orphée avec une machinerie extraordinaire qu'on avait utilisée pour une pièce montée pour le mariage de Louis XIV de Marie-Thérèse. Une machinerie qui était à la pointe de l'invention du temps. Bon, on n'a pas pu le faire, mais Molière, mais La Fontaine, mais Corneille ont fait des percées, des Andromèdes, des pièces à machine qui mêlaient tous les genres. Donc, il faut se défaire un peu des lieux communs. Et il y a aussi autre chose dans laquelle je peux entrer, le théâtre espagnol du baroque, comme l'opéra, très rapidement napolitain. Il ne faut pas oublier que Naples est... que l'Italie, aux trois quarts, est espagnole pendant plusieurs siècles. Et Naples, c'est une ville espagnole. Et l'opéra, qui naît là-bas, l'opéra bouffe et l'opéra seria, qui naissent à Naples, sont calqués en trois parties, en trois journées, sur la comédie espagnole. Et il y a une procédure d'écriture rapide, que dans l'opéra on appellera le récitatif, que nous avions déjà dans le théâtre espagnol. Ce qui fait que ces auteurs d'opéra ou de théâtre ont écrit des centaines de pièces. Mais en France, vous avez, c'est pareil. Vous avez Thomas Hardy, dont on ne parle pas, qui a écrit plus de 600 pièces en France. Il en est resté 30. Bon, voilà cette espèce de parcours. De même que lorsqu'on vous parle, mais c'est très à la mode, le salon du livre où j'étais, il y avait des tas de gens qui avaient des écharpes, princesse de Clèves, on dit la princesse de Clèves, parce que ça lui plaît à quelqu'un, la princesse de Clèves. Eh bien, la princesse de Clèves, qui passe pour le roman du XVIIe siècle, mais qui n'est pratiquement pas lu. Le grand succès éditorial, c'est en termes modernes, au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, en France, 1620, ce sont les histoires tragiques de François de Rosset, qui n'arrête pas de s'éditer. C'est ce qu'on lit. Et ce théâtre, dont on nous dit classique des unités, etc., c'est un théâtre élitiste, et en général minoritaire, parce que tout ce type de théâtre, donc on dit baroque, avec des divertissements, avec de la musique, avec les variétés de lieux, tout cela continuait. Il y a énormément, même au XVIIIe siècle, de théâtre de ce type-là qui se faisait. Bon, j'étais un peu long, on a commencé un peu tard, j'en reste là, et je voudrais juste vous donner maintenant les exemples, si vous le permettez, de deux pièces, de commandes qu'on avait faites. Oui. L'une, et après on discutera ce que vous voulez dire. Un extrait. Avez-vous les papiers que j'avais donné à Madame tenir à Madame Capelletti? Les extraits de Don Juan. Puisqu'elle me demandait au nom de. Oui. Au nom de d'un professeur de français. Qui voulait une comparaison, ce fera de vous-même, de l'amour selon Don Juan, si amour il y a, je crois, et Roméo et Juliette. Alors, vous n'avez pas ce texte? Vous n'avez pas eu le texte? Bon, ben, à côté, je lis très mal, mais je vous lis très, 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 très vite. Voilà la situation, ça va durer très peu. Don Juan, qui a séduit, qui a violé enfin, la duchesse Isabelle à Naples, se sauve et retourne en Espagne, et son navire fait naufrage. Et il y a une jeune pêcheuse, très pêcheuse, puisque la scène avant, elle dit qu'elle a tous les hommes à ses pieds, et qu'elle se moque de toutes celles qui sont amoureuses, et tous les hommes qui pleurnichent à ses pieds, qu'elle est absolument inflexible. Et bien, dans cette idée, elle tire. Bon, Don Juan, qui est évanoui, ça, c'est son valet, hein, donc Catalino, son valet. Et voilà, ça c'était la première, parce que j'ai fait trois versions. Ça, c'est la première version. C'est pas très visible, et on n'entend pas très bien Prisérel. Et aussitôt, l'évêque, il sort de scénario de glissement et il commence une scène de séduction. Alors que le valet lui a dit que c'était le fils du gentilhomme du roi, et une pêcheuse ne peut pas imaginer que. Quoi que ce soit par rapport à un avenir, par rapport à ce gentilhomme noyé. Alors je vous dis, je vous le lis très rapidement. Alors, vous pouvez me m'excuser de ma lecture. Alors, Tisbé, elle s'appelle Tisbé. beau jeune homme, noble et gentil cavalier, revenez à vous. Bon, la mise en scène, c'est par le baiser, c'est la, le beau dormant. Don Juan s'éveille, où suis-je ? Thisbé, je crois que cela se voit, une femme vous tient dans ses bras. Il lance Don Juan entre les bras d'une femme. Don Juan, aussitôt, commence la séduction. Parce que, ce qui est très intéressant, Don Juan espagnol, les aristocrates, il les viole, il prend la place de l'amant qu'ils attendaient, et il y a deux femmes du peuple, ici la pêcheuse, il prend la peine quand même de les séduire. Ah, c'est quelque chose qui est quand même égalitariste, si vous voulez. Alors Don Juan, je me mourrais, c'est plein de jeux de mots évidemment, je me mourrais dans la mer, mais dans vos yeux je revis, car de son liquide enfer, j'emmerge dans leur paradis. Une tempête effroyable coulant mon vaisseau sur ses bords, mais pour mieux m'offrir le port de beaux de grâce durable. Déjà, je me sens renaître. Bon, vous imaginez de quelle façon, puisqu'elle est un peu tripotée. Mais pourquoi ça m'étonner ? Voyez-vous, le verbe aimer, aimer, le verbe, contient la mer d'une lettre. Alors, Thisbé, évidemment, elle peut un peu secouer. Vous montrez beaucoup de flammes pour quelqu'un d'aussi transi, pour quelqu'un qui rend des lames, vous montrez beaucoup d'esprit. Mais si vous avez subi la torture de ces flots, c'est le supplice de l'eau qui vous fait parler ainsi. Je crois que vous y avez bu le sel de vos fariboles, sans lequel vous n'auriez pu rendre ces belles paroles. Vous savez être éloquent, bon, bouge beaucoup pour la mise en scène. Votre silence en dit long. Vous aviez perdu le sens, mais non point les sensations. Vous gelez à fendre l'âme, mais à qui vous en croirez, vous promettez belle flamme. Et puis, c'est aparté, c'est trop beau pour être vrai. Non, elle n'y croit pas. Non, c'est elle qui entre dans le jeu. Parce que dans le jeu de la séduction, qui commence la séduction ? Elle est séduite par cet homme entre ses bras évanouis. Il lui parle, mais qui est l'objet de qui ? De lui. Parce qu'il est séduit par elle, entre dans la séduction, mais qui mène le jeu de la séduction ? Évidemment, ici, c'est trop beau pour être vrai, montre bien qu'elle est lucide, que ça ne peut pas marcher. Mais aussi, c'est une vocation à l'illusion, puisqu'il était question que je parle de l'illusion de l'amour, mais ça irait trop loin. Alors, vous semblez cheval de Troie tout mouillé en apparence, mais qui, pour briser ma défense, porte le feu sous le froid. Et si vous brûlez ainsi, bien que vous soyez en âge, une fois sec, je présage, vous risquerez l'incendie. Vous promettez un beau feu à qui vous écouterez, feu de paille de l'aveu, plaise à Dieu que ce soit vrai. Alors, donc, j'en continue, il est mieux valu pour moi mourir Saint-Esprit dans la mer que périr de désarroi dans la rigueur de vos fers, car la mer pouvait m'étreindre, mais non me faire embraser, quand vous refusez d'éteindre le cœur que vous enflammez. Vous ressemblez au soleil, bien que vous soyez de glace, car la neige de vos grâces allume le feu sans pareil. Thisbé, il y a chez vous un tel feu, bien que vous soyez glacé, que l'on se prend à ce jeu. C'est le jeu qui est captateur, bien sûr, plaise à Dieu que ce soit vrai. Et alors, amour, vous pouvez le transposer, comparer à Roméo et Juliette, qui a l'amour des corps et l'amour spirituel aussi, au début. Mais là, évidemment, moi je crois qu'on est toujours amoureux de l'objet que l'on désire. Le désir dignifie toujours l'objet. Et que je pense que malgré tout, je ne peux pas, j'ai beaucoup théorisé, j'ai beaucoup écrit là-dessus, sur le jeu, mais je ne peux pas le théoriser, j'écris bien beaucoup de livres, je vous livre cette conclusion et on va regarder l'image. J'arrête ici, non ? Je passe très vite à l'autre, à un extrait de La vie est un songe, qui est une ville, une pièce aussi emblématique du baroque. La vie est un songe à ce sujet terrible. Le roi de Pologne, qui est astrologue et astronome, c'est la même chose à cette époque-là, avait prévu qu'à la naissance de son fils, excusez-moi, sa femme étant enceinte, sa femme qui aime beaucoup, il y aurait des événements absolument terribles, effroyables, et que ce fils lui marcherait un jour sur la tête. Et bien, sa femme meurt lors de l'accouchement de celui qu'il va appeler Sigismond, et donc il l'enferme à vie dès sa naissance, sans qu'on le sache, dans une tour, et élevé comme une bête. Donc c'est une espèce d'expérimentateur, ce roi. Et ensuite, pris de remords pour assurer sa succession, parce qu'il a deux neveux qui se disputent aussi sa succession, son trône, il tente une expérience. Vous voyez un peu, ça fait un peu les médecins terribles qu'on a pu connaître, pervers. Les savants terribles, les savants fous. Une expérience dans le palais, son fils sera endormi et se passera de sa tour, de sa grotte, au palais. Il se dédiera à habiller tous les attributs de prince, entouré par des courtisans, qui doivent faire tout ce qu'il veut. Et s'il se comporte bien, eh bien, il aura le trône. Et s'il se comporte mal, il ira dans sa grotte. Il retournera dans la cave, endormi, pour qu'il souffre moins. Alors, évidemment, puisqu'il a élevé son fils comme un animal sauvage, évidemment, l'expérience, vous allez voir quelques espèces d'expériences très vite, dans le palais, tourne mal. Il va essayer de violer sa cuisine, sa cousine. Il tue un homme le premier jour. Il a un affrontement terrible avec son père. Et son père le fait endormir, encore une fois. Il retourne dans sa prison. Et là, il ne sait plus où est la vérité. Pascal s'inspire de cette pièce, parce qu'il dit un mendiant qui rêverait 12 heures qu'il est roi, ou le roi qui rêverait 10 heures qu'il est mendiant, ben, où est la vérité, où est la réalité. Voilà donc, ça pose exactement ce problème. Et il y a ce théâtre en théâtre, puisque tout le monde sait, sauf lui, dans le palais, l'expérience à laquelle il est soumis, et dont tout le monde connaît la vérité, sauf lui, et après il se retrouvera. Alors, je vous montre juste un peu la scène du palais, c'est pour ne pas allonger. Nous avions essayé de rendre un peu cette espèce de dualité, d'illusion baroque, parce que tout le décor était en miroir. Là, malheureusement, ça ne se voit pas. Et le metteur en scène avait voulu que les personnages, pour montrer la dualité, la duplicité, pour montrer de ce baroque que j'avais expliqué aux comédiens, j'avais fait un livre aussi là-dessus, en prologue à la pièce, ont leur visage moulé derrière, endormi. Donc ça faisait un effet très impressionnant avec les miroirs et qui redoublait les perspectives dans un monde d'illusions dans lequel se trouve aussi Gilmont sans savoir où est la réalité. Voilà, donc on va voir quelques secondes de cette scène du palais, puis après la scène terrible aussi Gilmont. Attendez, je vais vous lire, excusez-moi, pas encore, voilà, puisqu'on n'avait pas le texte. Lorsqu'il est revenu dans son palais, après ses expériences, dans sa prison, il dit ceci. Ce monde est si singulier, quand il s'éveille, que vivre n'est que rêver. Et le songe qui s'achève me montre chez mon pareil que l'homme qui vit se rêve ce qu'il est jusqu'au réveil. Le roi rêve qu'il est roi, et sur ce mensonge il règne, fait qu'on l'aime et qu'on le craigne. Mais l'hommage qu'il reçoit, sur le sable écrit sa loi, car la juste loi du sort fait que sa gloire est sonore, quand sonne l'heure dernière, ne sont plus que la poussière dans le rêve de la mort. L'envers du décor baroque. Le riche rêve sa richesse qui n'apporte que soucis. Et le pauvre rêve aussi sa misère et sa détresse. L'ambitieux rêve sa noblesse. Noble serait le laquais. L'offensé rêve son honneur et il rêve l'offenseur. Chacun rêve ce qu'il est, mais personne ne le sait. Et il conclut, je rêve ce que je suis, prisonnier de cette chaîne. J'ai rêvé l'amour, la haine, comme dans une autre vie. C'est quoi la vie? C'est frénésie. C'est quoi la vie? Une illusion. Ce n'est qu'une ombre, une fiction qui dans le trouble nous plonge, et les plus grands bien et petits, car toute la vie est songe, et les songes sont mensonges. Bon, moi, j'ai respecté, puisque je veux traduire ces pièces-là en vers, je respecte la prosodie, les vers espagnols, dont les vers courts, avec le Jean-Swan Derling, c'est un jeu compliqué, mais qui m'amuse. Donc, voilà, la scène du palais. Cet acteur s'appelle Fabrice Michel, vous l'avez peut-être vu tourner dans Bérénice avec Carole Bouquet. Voilà. Enfin, il avait débuté dans une pièce de théâtre il y a très longtemps. Voilà, alors, si vous avez des questions... Je vais respecter le long, mais je suis à votre disposition, naturellement. J'ai laissé des gens qui ont été.
Oui, vous méritez bien, Fabrice, parce que c'est aussi mon premier moment.
Ça m'était aussi mon premier Don Juan dans la première version. Après, c'était un acteur qui venait du cinéma. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Merci, je prends pour lui cet applaudissement. Le terme baroque chez Shakespeare. Shakespeare, le théâtre dit élisabétain, il faut mettre aussi Christopher Marlowe hein, là-dedans, est un théâtre finalement qui n'est pas aristotélicien, puisque je crois que vous étudiez seulement Roméo et Juliette. Donc il y a Roméo et Juliette, il y a des passages en vers, en prose. Là, tout est versifié, mais il y a d'autres pièces espagnoles où il y a la prose et les vers. Et il y a très souvent chez Shakespeare le vers qui n'a pas inventé, mais qui est celui qui vient des Italiens, et qu'avait instauré Christopher Marlowe, hein, si vous avez lu son Faust, le premier Faust. Il y a aussi une sorte de Faust aussi de Calderón. Hein, j'avais la vie d'un songe de Calderón de la Barca, et le Don Juan, on le prête à tous les Molinas sans certitude. Et un vers décasyllabe blanc. Mais rythmé, évidemment l'anglais, le castillan, l'italien sont des langues beaucoup plus rythmiques que le français, et voilà, qui permet une certaine liberté, puisque le discours, quand il s'élabore, il passe dans les vers. Mais comme là, ce sont des vers courts que j'essayais de rendre, là, c'était très élaboré, hein, la tirade de Sigismond, très élaborée, par des strophes de 10 pieds, les vers sont très agencés, et je me suis amusé, je me suis compliqué la vie, bien sûr, à essayer de rendre ça. Et ça passait très bien, puisque ça tournait pendant longtemps, la pièce, pendant plusieurs années. Et dans Shakespeare, c'est pareil, ce théâtre, donc il n'y a pas d'unité de lieu, il n'y a pas d'unité d'action, parce qu'il y a souvent des actions multiples. Et c'est donc un théâtre qui se définit, si on peut le définir, parce que c'est très large, il y a les comédies, il y a les tragédies, c'est contre Aristote, en fait. Voilà. Sans qu'on ait de quelconque théorie anglaise à ce moment-là, ni de Shakespeare, ni de Marlowe. Ils ont écrit, on ne sait pas plus. D'ailleurs, on ne connaît pas beaucoup de la vie de Shakespeare, on ne connaît pas beaucoup de Marlowe, sinon qu'il est turbulent, qu'il est assassiné dans une taverne. Tandis que nous avons la chance pour le théâtre espagnol qui a été très très théorisé. Et j'ai oublié de vous dire que ce théâtre était un théâtre national et populaire. C'est-à-dire que très souvent, on prenait des sujets de l'histoire espagnole. Et populaire puisque toutes les classes de la société se retrouvaient. Et c'est pareil pour le théâtre de Shakespeare. Hein, dans le théâtre du Globe, ce n'était pas le théâtre qui était celui de Shakespeare. Là où l'on jouait ses pièces, le théâtre du Globe, à Londres, c'est ça, le théâtre du Globe. Hein? Parce que j'ai vu des moments, oui, le théâtre du Globe. Eh bien, dans le théâtre du Globe aussi, dans le théâtre, c'est un théâtre où il y avait toutes les classes de la société. Et l'intérêt qu'il y a aussi dans Shakespeare, il y a des passages comiques, il n'y a pas l'unité de ton non plus, hein? C'est pas forcément tragique, il y a le tragique, le comique, il y a tous les registres de langue, parfois très orduriers, qui se retrouvent. Le théâtre espagnol est beaucoup plus puritain, si je puis dire, sur ce chapitre. Mais il y a quand même la strate populaire et la strate noble. Il y a des jeux de mots galants, précieux, on dira pour simplifier, très compliqués dans le théâtre Shakespeare et dans le théâtre espagnol. Mais dans le théâtre espagnol, vous voyez, malheureusement, on n'a pas vu le valet, en fait, bon, je l'ai fait dire d'autres choses que je m'adressais au public d'aujourd'hui. Et je le faisais dire des choses qui expliquaient un peu des situations, des moments historiques que le public français n'a pas sur ce théâtre-là, ben, c'était le valet. Et parce que dans ce théâtre-là, le valet souvent est le traducteur au niveau populaire de ce que dit de façon très élaborée, et surtout quand il s'agit d'amour, il y a toujours la société qui s'en mêle, la galanterie, le maître. Et c'est le valet est l'intermédiaire entre le public, entre la scène et la salle. Le maître dit une métaphore très compliquée, le valet la traduit de façon comique, et les gens rient, mais tout le monde comprend, à son niveau. Donc il y a diverses entrées, ce qui est très intéressant, diverses entrées. Vous savez, dans le théâtre, comme partout, on n'est pas forcément au lieu de sa forme, on n'écoute pas toujours, on se distrait, mais il y a toujours des moments où l'on peut rattraper, et le valet a ce rôle-là de resituer les actions. Souvent, au début des scènes, comme c'est très compliqué, souvent, les intrigues, eh bien, il fait une espèce de résumé comique. Et ça permettait évidemment à toute la société, finalement, d'être ensemble. Et j'oubliais de vous dire, enfin, je n'ai pas oublié, mais ça aurait été trop long, bien sûr. Il faut que vous sachiez, puisque vous en parlez du baroque, comme on a demandé de vous parler, que le baroque est très aristocratique, par certains côtés, mais très populaire. Et ça, c'est l'esprit de la contre-réforme. Les nouvelles églises de la contre-réforme, il y a une vaste, une seule nef pour que tout le monde, sans distinction de classe, entende le prédicateur. C'est très important. Et dans ce théâtre-là, ce théâtre et même le théâtre français aussi, le théâtre baroque français, même le pas baroque, et je dis encore le pas baroque, je m'entre guillemets, ce théâtre-là est un lieu où se retrouve. Je fais la parenthèse pour le théâtre français ou le théâtre de cours espagnol, etc. Où se retrouve toute la société et où le groupe social réaffirme sa cohésion. On ne met pas en cause sur scène le Dieu, qu'on ne nomme pas. On appelle à Dieu, ici, on parle de plaisir à Dieu. Mais on dit, vous savez bien, dans le théâtre de Racine-Corneille, le ciel, les dieux, on ne nomme pas Dieu. On ne met pas en doute Dieu. On ne met pas en doute le pouvoir. Le prince est respecté. Rien, le Cid, ça vient Corneille, ça vient dans le sud qui vient d'Espagne, c'est exactement pareil, ça vient d'Espagne. Chez Racine, on ne conteste pas le pouvoir, ce n'est pas un lieu de contestation, c'est un lieu où le groupe réaffirme sa cohésion par rapport à certaines valeurs. En Espagne, quelque chose d'exemplaire, c'est le duel, la religion de l'honneur, qui veut monter l'honneur afin de monter la vie. C'est la traduction littérale, évidemment, de Bien de Castro. Un homme sans honneur ne peut pas vivre, il doit se venger. C'est une religion parallèle, il doit vengeance de sang. Et donc, tout ce code-là, et aussi le code des bonnes manières, dans le théâtre espagnol et dans Shakespeare, il y a le code des bonnes manières, comment l'on parle à une dame, comment on se comporte face à une dame. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement social qui resserre des liens. C'est pas un théâtre jamais de confrontation. Même Don Juan, évidemment. Don Juan, oui, finalement, peu, et même Sigismond a versé des choses. Et Sigismond, qui a été donc persécuté par son père de l'enfance, à la fin, on vient le tirer de sa prison, il y a un soulèvement parce qu'il est le prince légitime, il y a la guerre contre son père est vaincu, il peut lui mettre le pied sur la tête, puisque le père avait eu peur de cette image qu'il avait vue, soi-disant, dans les astres, il avait vu ce qu'il voulait voir. Et Sigismond dit, bon, relevez-vous mon père, et il lui rend le pouvoir, alors que le père dit non, c'est moi qui reconnais sa faute. Mais on ne met pas en cause, et même le rebelle qui a libéré Sigismond, Sigismond l'envoie dans la tour à sa place, donc c'est lui qui l'a libéré. Donc pas de contestation, ni chez Shakespeare, ni en France, ni en Espagne, du pouvoir. Par contre, il est vrai que nous, on peut faire une lecture Don Juan, qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, je voudrais dire ma théorie, puisqu'on parle de Roméo et Juliette, c'est l'émancipateur des femmes. Ça peut paraître paradoxal, bien sûr, puisqu'il les séduit. C'est l'émancipateur des femmes. La femme, à cette époque-là, et en Espagne encore plus, mais c'est pareil partout, la femme a un réseau, je dirais, de distribution. Elle passe du père au mari, ou s'il n'y a pas le père, du frère. Donc, réseau de distribution avec le label de la virginité, obligatoire. Donc la femme appartient, si elle n'a pas de père, si elle n'a pas de frère, si elle n'a pas de mari, elle va parfois au couvent, mais elle est l'épouse de Dieu, au couvent, maintenant l'épouse de Dieu. Et si elle n'a pas de mari, elle n'a pas de Dieu, elle n'est pas au couvent, et la personne, ça devient la prostituée qui appartient à tous les hommes. Et quand la prostituée est, c'est la sorcière. Donc on met au banc, c'est-à-dire donc, à la limite de la ville, du village, dont la femme ne s'appartient jamais. Alors, Don Juan apparaît, vous avez vu, c'est pour ça que je vous laissais montrer cette scène, que je trouve très mignonne. Finalement, qu'est-ce qu'il parle? Il éprouve du désir, elle éprouve aussi le désir. Le désir parle en vérité. On peut feindre l'amour, on peut dire oui, je t'aime, etc. On ne peut pas feindre le désir. Un homme ne peut pas feindre le désir, c'est une évidence. To be or not to be, c'est là ou c'est pas là. Alors, on ne peut pas tricher avec ça. Non, on peut feindre sur le sentiment, on ne peut pas feindre sur le désir. Et là, c'est le désir qui parle en vérité. Il ne parle pas à Tisbé, comme Marie. Il ne parle pas comme Père, elle a un Père. Il ne parle pas au nom de Dieu. Il parle finalement de nature à nature, d'homme à femme.